Mais on m'a dit de bien garder le temps. Alors, le deuxième intervenant, c'est Frank Freitas-Ekwe. Frank, il est doctorant en sciences politiques. Il est membre également du laboratoire GTM. Sa recherche porte sur la relation entre racialisation et capitalisme. Et parmi ses dernières publications, il y a le numéro 10 de la revue Poly, Politique de l'image, qui est intitulé « Technoracisme, reproduire la race ». Le titre de sa relation aujourd'hui est « The Lady of Race, quand la déconstruction de la féminité éclaire la ligne de couleur ».
Merci Jamila.
Comme ça vient d'être dit, en effet, ma présentation s'appelle « The Lady of Race, quand la déconstruction de la féminité éclaire la ligne de couleur ». Le point de départ de mon intervention est ce morceau de phrase énigmatique, donc « The Lady of Race », prononcé en 1919 par le sociologue Robert Ezra Park. Fidèle à l'esprit de la première école de sociologie de Chicago, dont il était l'un des principaux représentants, Park s'attachait à comprendre les raisons pour lesquelles ces relations interraciales aux États-Unis étaient étroitement encadrées par les préjugés raciaux. Pour le chercheur, ces préjugés n'étaient rien d'autre qu'une réaction instinctive à la différence des tempéraments qui distinguaient les races. Voici ce que dit précisément le passage. De par ses dispositions naturelles, le nègre est ni un intellectuel, ni un idéaliste comme le juif, ni une personnalité sombre et introspective comme l'habitant des Indes orientales, ni un pionnier, ni un rural comme l'anglo-saxon. Il est avant tout un artiste, appréciant la vie pour ce qu'elle est. Ses compétences professionnelles se situent dans l'expression plutôt que dans l'action. Le nègre représente en quelque sorte la femme au milieu de toutes ces races. Bien entendu, de tels propos ne sont pas tombés dans l'indifférence. Ils ont soit influencé des recherches telles que celles de Gunnar Myrdal et de son ouvrage American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy, ou soit ils ont suscité de vives critiques auxquelles je reviendrai dans mon développement, incitant un nationalisme noir à prôner le strict respect des rôles binaires, avec des femmes priées d'accepter leur subordination. Bien entendu, cette histoire est relativement bien connue. Les ouvrages de Bell Hooks ou de Michel Wallace ont largement commenté et analysé cette question. Ce n'est pas sur le point de l'inversion des rôles de genre que je souhaite attirer l'attention. Cette formulation « Lady of Race » met aussi en avant un mécanisme de domination, celui au moyen duquel il a été possible pour une suprématie blanche d'assurer l'asservissement conjoint des masses d'individus regroupés dans des modes de catégorisation donnant le change à un système binaire, homme-femme, hétéro-homosexuel, blanc et population colonisée. Si l'on se focalise sur les catégorisations qui répondent à la figure universelle de l'homme blanc hétérosexuel, elles sont reliées par un fil rouge sur lequel se rattachent des idées telles que la vulnérabilité, l'incapacité, l'inintelligence, mais aussi, j'insiste là-dessus, l'émotion, la beauté, l'érotisation, etc. Ces manières d'être prêtées à des groupes sociaux en particulier sont surtout les marqueurs associés aux femmes et fonctionnent comme des techniques de domination. L'ensemble de ces qualifications ayant pour visée de les rattacher à une activité limitée au corps, en opposition à celle de l'esprit. Les études de genre et les théories féministes ont su développer des analyses originales sur de subtiles techniques de domination. Je pense ici notamment aux travaux sur la beauté qui interrogent la beauté féminine, comme ceux de Naomi Wolf, par exemple. La particularité de ces techniques est qu'elles ne se présentent pas systématiquement comme négatives pour les individus. Elles sont également source de plaisir. Dans quelle mesure ces questionnements aident-ils à éclairer les travaux sur des groupes sociaux minoritaires pour lesquels le corps a historiquement joué le rôle de marqueur identitaire? Pour être plus précis, quels enseignements peut-on tirer de ces savoirs situés et critiques en ce qui concerne la ligne de couleur? Tout d'abord, j'aimerais brièvement revenir sur la personnalité de Robert Park. Il faut quand même préciser que ce sociologue était très proche du leader noir américain de l'époque, Booker T. Washington, qu'il a employé de 1907 à 1914 dans l'université qu'il a fondée, Tuskegee Institute, alors que la ségrégation raciale était de vigueur dans le sud des États-Unis, où se trouvait la faculté. En l'occurrence, Park se présentait comme une figure du progressisme états-unien à l'époque. Deux ans après avoir déclaré « The Negro is the lady among the races », Park a clarifié ses propos. Pour lui, le tempérament du nègre se caractérise par une manière d'être insouciante, aimable et avenante, portée sur l'externalité et la matérialité des choses, plutôt que sur les états subjectifs et les explorations introspectives, préférant l'expression à l'entreprise et à l'action. Il prétend ici produire une analyse scientifique dénuée de tout jugement négatif, bien au contraire. C'est d'ailleurs à ce titre que Ralph Ellison a vivement critiqué ce point de vue, dont il pointe les effets dévastateurs sur le plan normatif. Merci. Pour l'auteur de Homme invisible, pour qui chantes-tu, le sociologue a non seulement orienté la recherche scientifique, comme il a pu le constater en faisant la recension d'American Dilemma, mais surtout sa pensée avait certainement eu un impact sur les étudiants noirs de Tuskegee Institute, où il enseigne. Ellison craignait que de tels savoirs encouragent une jeunesse noire à se diriger en particulier vers des activités en lien avec leur prétendue qualité émotionnelle. Si ce type de discours est aujourd'hui prétendument désuet, il invite quand même à s'interroger sur ce qu'elle renseigne sur la compréhension du rapport entre négrité et blanchité, ou négrité ou blackness si vous voulez, de l'époque esclavagiste puis coloniale jusqu'à nos jours. Certes, ces systèmes d'exploitation et de domination ont été légalement abolis, mais le corps continue non seulement d'être la grille de lecture par laquelle sont réduites les existences noires, mais ce mode de compréhension est conditionné par un double sentiment d'aversion et de désir du regard blanc qui advient, en l'occurrence, par ce contact avec une altérité noire, comme a pu le montrer Frantz Fanon. En résumé, se trouve une subordination raciale d'un terme par rapport à un autre, et qui passe par une objectivation et une appropriation non plus physique, mais symbolique. J'aimerais ajouter que la survivance de cette réification raciale n'a pas la même valeur selon que ce phénomène se situe au sein d'un système coercitif ou au sein d'un système organisé autour du libre arbitre et le consentement des individus. Imaginez par exemple la commercialisation du corps noir en NBA. Elle ne produit pas effectivement les mêmes réactions que la commercialisation durant l'esclavage ou encore le système carcéral états-unien. Ce point est pour moi capital dans la mesure où, avec la question de l'adhésion, certaines formes de marchandisation du corps noir sont inaudibles pour certains, voire présentées comme un progrès, donc un non-sujet pour d'autres. À cet effet, les études sur le genre présentent un grand intérêt de par le projet de déconstruction et d'analyse critique qu'elles portent et qui jettent un éclairage nouveau sur la place du corps dans les mécanismes de domination. Elles mettent en mots des situations de domination jusque-là perçues comme inaudibles ou subreptices parce qu'elles tombent dans l'idée de nature. L'invisibilisation des dominations auxquelles s'est attachée à déconstruire la critique féministe a conduit à s'intéresser aux formes les plus insidieuses de la domination. Ce que Colette Guillaumien a nommé le dressage positif, c'est-à-dire ces dominations plus aisément intériorisées et volontiers défendues par les cibles, en l'occurrence les femmes, qu'elles fournissent un certain bien-être auquel l'autre versant de la domination patriarcale, le dressage négatif, les prive. On pourrait par exemple ici penser à l'intériorisation du rôle de mère de famille, qui garantit une respectabilité et la légitimité de sa présence dans l'espace public, auquel les femmes en soi sont ordinairement privées. Si les questions de racisme se sont volontiers intéressées aux effets de sa violence symbolique, dépréciation de soi, exclusion, mort sociale, etc., et physique, arrestation systémique, condamnation, mort, comment matérialiser ce racisme, est-ce le mot juste d'ailleurs, qui n'est pas une violence en soi et qui est volonté admise et partagée par les personnes concernées eux-mêmes? À titre d'exemple, l'ensemble des représentations noires et attractives produites par les industries culturelles, les agences publicitaires, la presse, etc. Ces institutions diffusent volontiers des images d'une masculinité et d'une féminité noire dont on loue volontiers la démesure. Quel est alors le problème? Les théories féministes qui articulent la race ou non d'ailleurs, portées par des chercheuses comme Suzanne Bordeaux, Patricia Collins ou encore Teresa de Loretis, ont montré la manière dont les représentations disposent d'un pouvoir normatif d'une grande efficacité. En outre, les cultural studies et les études queer montrent d'ailleurs qu'elles sont un enjeu politique de premier ordre. Les forces conformes à l'ordre social dominant conçoivent des représentations qui reflètent les pensées dominantes en termes de représentation raciale, de genre, de classe et de sexualité. En l'occurrence, et en ce qui concerne les représentations noires ou de racisées de manière générale, celles-ci tournent essentiellement autour d'une réduction au corps, y compris lorsqu'elles touchent des personnalités dont cette matérialité ne serait a priori pas leur outil de travail, comme le journaliste Harry Roselmack, décrit dans la presse People comme, je cite, « une tête rasée sur un corps sec et musclé, il est probablement l'un des journalistes les plus sexy de la télévision française », ou encore Barack Obama, dont on peut lire « qu'il est beau », exhibant sa plastique sur un papier glacé de la dernière édition du Washingtonian, la photographie du président américain à moitié nu, conquérant comme pas permis, cachant ses yeux derrière des lunettes noires, sexy en diable. Elle corrobore la thèse de Fanon qui affirmait que pour le regard colonial blanc, le nègre symbolise le biologique. Ces représentations fantasmées attisent la puissance sexuelle de la blanchité à l'instar de représentations dominantes des femmes qui interpellent la puissance sexuelle de la masculinité. La relation de subordination que relève Fanon, enrichie par les problématiques féministes, ouvre sur de nouvelles perspectives sur l'appréhension du racisme et ses procédures d'intériorisation par les dominés eux-mêmes. Des auteurs comme Suzanne Bordeaux ou Colette Guillaumin ont mis l'accent sur le caractère attractif des techniques de domination. À l'aide de la boîte à outils de Foucault, à l'aide de la boîte à outils de Foucault, Suzanne Bordeaux a montré dans Unbearable Weight, Feminism, Western Culture and the Body, publié en 1993, la manière dont la politique de l'image menée par l'industrie de la beauté procure à la fois plaisir mais aussi contrainte. Les images lisses, homogènes et étroites de la femme dite idéale produisent des normes attractives qui incitent les femmes surexposées à exercer une autosurveillance permanente, causant dans ces formes extrêmes un phénomène d'anorexie. Et alors là, l'anorexie n'est plus considérée comme une maladie pour Suzanne Bordeaux, mais vraiment est un phénomène structurel lié au patriarcat. Quant à Colette Guillaumin, qui nous a quittés récemment, dans Sexe, race et pratique de bouffoir, elle parle de naturalisme, soit cette croyance qui ramène les différences sociales à des explications intrinsèques aux êtres, autrement dit à leur nature, pour qualifier le sexisme et le racisme. L'invocation de la nature permettant d'insidieusement irriguer l'ensemble des lieux de savoir, en premier lieu la maison, l'école, le travail, mais aussi la recherche scientifique. Le tour de force de ces naturalismes étant par ailleurs de prendre appui sur un double jeu subtil, conciliant récompense, tu es physiquement attractif, tu excelles dans certaines activités, et de punition. Tu manques d'intelligence, de logique, tu es conduit par des instincts primaires, etc. Le naturalisme aboutit à une construction d'une essence qui réduit tout un groupe social à un statut de corps-objet au service d'un autre groupe dominant. Étrangement, Colette Guillaumin et bien d'autres font l'impasse sur la pertinence d'une telle analyse appliquée au racisme structurel. Il faut dire pour leur défense que la chose est effectivement difficilement pensable au niveau des formations raciales en raison de leur histoire spécifique. Historiquement construites comme des stigmates négatifs, ces formes de racialisation minoritaire, comme celles juives ou noires américaines par exemple, ont su neutraliser la marque d'infamie au cours de luttes pour la reconnaissance. Mais les gains réalisés en vue d'une émancipation politique ne peuvent pas être pris pour des acquis définitifs, comme on pourrait avoir tendance à s'en persuader. L'ordre structuré autour de la suprématie blanche, d'abord déstabilisé par le changement de mode d'approche sur ces catégories raciales, a su rapidement se réadapter et transformer ces techniques émancipatrices en techniques disciplinaires au service de ses besoins. Et là, la chercheuse Barbara Cruickshank montre par exemple la façon dont le projet d'empowerment féministe sous forme de lutte collective a fait l'objet d'une retraduction libérale encourageant les femmes à l'autonomie individualiste et méritocratique. Pour conclure, j'ai en gros essayé de montrer la manière dont la pensée féministe, dans toute sa diversité, a su apporter un éclairage sur les zones d'ombre dans la construction sociale de la race. En retour, cette dernière, que l'on doit comprendre cette fois-ci comme catégorie d'analyse, et là je parle bien de la race, a su mettre des mots aux dominations insidieuses que peuvent porter certaines critiques féministes. Et là, le concept de blanchité en atteste. Mais j'ai fini. Voilà.
Merci. Alors, on passe à la troisième intervenante, Karima Ramdani. Karima est docteur en sciences politiques. Elle est également membre du GTM CRESPA. Elle est enseignante en lettres, histoire, géo dans le secondaire. Et parmi ses publications récentes, ou futures, parce que c'est juin 2017, l'article qui va être publié sur les cahiers du CEDREF, Genre, race et allochronisme, les femmes indigènes au centre de l'altérité coloniale en Algérie. Le titre de sa relation aujourd'hui est le suivant, des habits politiques, les Françaises musulmanes et leur mobilisation politique en France après 2004.
Merci. Bonsoir à tous. Alors, donc pour commencer, je voulais juste préciser que c'est un début de réflexion, donc il y a beaucoup d'hypothèses que je vais essayer d'expliquer. Alors, pour commencer, je souhaiterais partir d'une question d'actualité qui semble faire réagir aussi bien les politiques, les médias, que le monde universitaire un peu partout dans le monde, mais qui a une résonance particulière dans un État laïque comme la France, qui est celle du féminisme musulman. Qu'est-ce donc ce féminisme venant de sujets dont l'appartenance religieuse non seulement n'est pas pensée comme une entrave à leur liberté, mais devient un des moyens par lesquels elles pensent se libérer des assignations de genre et de race. Parce qu'incompris, l'émergence de ce féminisme innommable, impensable, dans l'espace républicain français semble intriguer, pour ne pas dire agacer, aussi bien dans le microcosme médiatique et politique qu'au sein même de l'intelligentsia. Donc l'apparition d'une parole contestataire de femmes musulmanes en France, qui militent aussi bien dans l'espace religieux que dans l'espace public, interroge sur l'émergence de ces subjectivités politiques perçues comme atypiques. Ces féministes s'approprient et s'enrichissent surtout à la fois des valeurs républicaines, laïques et religieuses, qu'elles mettent au service donc d'une identification religieuse alors politisée et publique, faisant naître une parole politique syncrétique, défiant toute pensée dichotomique, dont cette idée de laïcité contre religion. Cette appartenance religieuse discriminée devient le moyen par lequel les musulmanes prennent la parole et deviennent des actrices politiques que l'on pourrait désigner comme étant des sabirs politiques. Alors, d'un point de vue linguistique, le terme sabir désigne une langue née sur les ports de la Méditerranée du contact entre des locuteurs parlant des langues maternelles différentes. De cette nécessité de communiquer tous ensemble a émergé une langue mixte et véhiculaire. Ce langage syncrétique résulte d'un mélange de français, d'espagnol, de grec, d'italien et d'arabe. Chez Abdelmalek Sayad, le sabir, perçu par les non-initiés comme du charabia, correspond en fait à un langage alternatif développé par les populations immigrées en France. En effet, le sabir, je cite, « ce n'est pas parler mal français, c'est parler autre chose que le français, c'est le parler d'une langue avec la grammaire d'une autre langue ou mettre la grammaire d'une langue au service d'une autre langue ». Et dans la littérature française, on a un exemple dans l'ouvrage de Molière, Le bourgeois gentilhomme. Je prends un petit exemple quand il dit si ti sabir, ti respondir, si no sabir, tazir, tazir. Ce qui veut dire si tu sais, tu réponds, si tu ne sais pas, tais-toi. Le sabir serait ainsi le produit d'une réappropriation créative de la langue française par les immigrés, notamment algériens. C'est à travers donc cette idée de réappropriation du langage que je propose aujourd'hui de discuter l'émergence d'un nouveau sujet politique, d'un sabir féministe musulman, qui surgit après la loi de 2004 interdisant le port des signes religieux dans les écoles publiques et qui, à travers le prisme religieux, se façonne donc une identité politique basée sur différentes références. Donc pour essayer d'étoffer mon propos, et plutôt mes hypothèses, je vous propose d'étudier le cas de deux mouvements récents de féministes musulmanes, celui du collectif Les Femmes dans la Mosquée et l'association Lalab. Donc, étant au début, comme je disais, de cette réflexion, je m'intéresse dans un premier temps à leur discours, objectif de ces associations, ce qu'elles dénoncent, et leur insertion dans le terrain de la lutte politique. Donc les femmes musulmanes perçues en France comme des objets, sujets non politiques, aussi bien dans les savoirs scientifiques que dans les discours institutionnels, administratifs, médiatiques et politiques, vont remettre en cause cette image de muette politiquement. Ce qui m'amène à m'interroger sur la notion même de politique. Serait-elle, comme le souligne Jacques Rancière, liée à une prise de parole, à un processus d'énonciation ? De ce fait, finalement, que nous révèlent ces mouvements féministes et antiracistes sur la définition du sujet politique dans un contexte postcolonial ? De quelle manière ces nouvelles formes d'engagement défient une vision européano-centrée et genrée du sujet politique et permettent de déplacer les frontières de la définition du sujet politique dans une perspective intersectionnelle ? Donc, dans le contexte français post-loi 2004, la question du militantisme des femmes musulmanes et ses diverses manifestations dans l'espace public français de son développement se pose. Et il y a beaucoup encore de questionnements autour de ces mouvements. Donc, premier point, donc, l'apparition d'un féminisme musulman en France. Donc, dès la fin des années 90 jusqu'à aujourd'hui, la question du voile des femmes musulmanes met sous les projecteurs l'aspect dit antinomique de l'islam et de la modernité, de l'islam et de la laïcité, ou encore de l'islam et de l'émancipation des femmes. Si la loi de 2004 sur l'interdiction des signes religieux amène les différents mouvements féministes français à se positionner, de nouvelles voix inattendues de femmes musulmanes se manifestent sur la scène politique pour replacer certains termes dans leur contexte, comme notamment celui de laïcité. Pour se faire entendre, donc, ces femmes ne peuvent ni utiliser un vocabulaire religieux qui serait inaudible dans un espace public, laïque, et en même temps, elles ne peuvent utiliser le langage des dominants sans du moins le questionner ou se le réapproprier. Alors, l'exemple que j'ai choisi, le cas premier, c'est l'association Les Femmes dans la Mosquée qui a été créée en 2013, qui milite aussi bien dans l'espace religieux que dans l'espace républicain et qui nous interpelle aujourd'hui sur l'émergence donc, de ces subjectivités. Ce collectif a été créé par la sociologue Hanan Karimi. Il s'est opposé à la grande mosquée de Paris qui faisait prier les femmes dans le sous-sol. Il prend aussi position dans le débat public sur la question de l'interdiction du voile à l'université et dénonce l'importance des actes islamophobes en France depuis plusieurs années. Ce collectif donc mixe des valeurs républicaines, laïques et religieuses au sein d'une identification religieuse, faisant naître une parole donc syncrétique. Et cette appartenance, ce collectif va notamment lutter donc sur plusieurs fronts et va mettre en avant les principes fondamentaux de l'espace républicain et qui est la liberté de croyance et la liberté d'expression. Et aussi dans l'espace religieux, ce collectif féministe et antiraciste fait la critique du sexisme qui est dissonant, selon elle, avec le texte religieux et qui s'insère donc, elle s'insère donc dans une recherche scientifique et historique de l'histoire de la civilisation musulmane et des femmes surtout qui ont fait cette civilisation. Ce qui est intéressant donc avec ce collectif, c'est que non seulement il amène à repenser la question de l'émancipation des femmes en dehors d'une vision européano-centrée et dominante, de plus, il bouscule donc ce que je disais, l'image que l'on se fait de l'acteur, de l'actrice politique, et confirme un peu cette idée énoncée par Jacques Rancière, pardon, pour qui la subjectivation politique est liée à une prise de parole et donc à un processus d'énonciation. Elle est, je cite, « la profération d'une revendication par ceux qui sont sans part dans le décompte des voix ». Le deuxième exemple intéressant, c'est celui de l'association La Lab. Alors, c'est une association et aussi un magazine en ligne qui a été créé en mai 2016 par Sarah Zouak et Justine De Villene et qui compte à peu près 200 bénévoles et dont le but est, je cite, « d'entendre les voix des femmes musulmanes pour lutter contre les oppressions racistes et sexistes ». Nous façonnons un monde dans lequel les femmes choisissent en toute liberté les armes de leur émancipation. Donc la lab, c'est un néologisme du mot lella, qui veut dire madame en arabe, et de lab pour laboratoire. C'est donc un laboratoire d'idées et de rencontres féministes et antiracistes. Leurs moyens d'action sont divers. Dernièrement, le 6 mai 2017, l'association a organisé un festival féministe à la Bellevilloise, ayant pour terme la sororité dans sa dimension intersectionnelle, Au programme, il y avait donc des talks féministes musulmanes, une table ronde, des expos, un concert, etc. La Lab, c'est aussi un magazine en ligne qui met en avant l'écriture de nouvelles histoires, déconstruisant les clichés à l'encontre des femmes, où sont partagées des expériences de femmes, des partages de connaissances, notamment sur le savoir féministe musulman, partout dans le monde, et aussi féministe dit islamique, promotion notamment de documentaires, ateliers, mais aussi un travail de sensibilisation dans les écoles sur notamment la question de l'islamophobie en France. Donc l'idée de ce collectif est, je cite, de faire entendre les voix des femmes musulmanes dans leur diversité, d'être actrices de leur histoire, de résister face aux préjugés et notamment ceux spécifiques aux femmes musulmanes, de se libérer elles-mêmes, de célébrer les femmes passées, de changer l'image des femmes musulmanes dans les médias et de participer à la transformation de la société pour aller vers une société juste et égalitaire. D'ailleurs, dans une interview au journal Le Monde, Sarah Zouak, donc une des fondatrices de cette association, en parlant de son statut de musulmane française, marocaine et féministe, explique à la journaliste qu'elle avait, je cite, « l'impression que selon les situations, je ne devais porter qu'une seule casquette à la fois ». Et c'est là finalement la difficulté de tout positionnement intersectionnel, celui de se positionner sur un seul front, alors que la bataille doit être menée sur plusieurs en même temps. Et c'est ce qu'elle donc elle explique, ils essaient de faire cette association, de répondre donc à cette exigence de critiques multiples, comme dirait Myriam Cook. Alors, que nous apprend ces discours sur la notion et du sujet politique? Alors, ces deux mouvements donnent finalement la parole aux femmes musulmanes. Non seulement ils contestent donc un ordre patriarcal leur interdisant l'accès aux espaces traditionnellement réservés aux hommes, mais elles s'opposent à un ordre républicain qui, sous couvert de laïcité, les somme de rentrer rejoindre ce que Abdelmalek Sayad appelle un territoire d'assignation, qui pour les femmes ici est la maison. Elles essaient donc de se construire politiquement en prenant les avantages des différents systèmes de valeurs qui se font et se défont dans leur identification. Elles se construisent à travers des pratiques et des discours, qui sont à la fois source d'assujettissement, mais aussi ce par quoi les conditions de leur émancipation deviennent possibles. Alors, c'est dans ce principe donc de s'accommoder aux enjeux du contexte, de créer un sabir qui serait un discours, je dirais, rationnel, de liberté de croyance, liberté d'expression, et de réclamer les droits et les avantages que procure la laïcité, donc celui de protéger sa pratique et surtout de devenir en quelque sorte neutre, et donc de désacraliser, par exemple, le voile, le fichu qu'elles ont, que ces militantes tentent de se positionner. De plus, le discours de ces militantes est en rupture donc avec l'ordre social et genré de, entre guillemets, leur communauté, parce que leurs visées émancipatrices sont aussi attaquées par certains membres qui les perçoivent comme des déviantes, dont elles tentent finalement de s'extirper de cette catégorie d'innommables, expression de Sayad, il y a beaucoup Sayad, hein. Voilà, mais c'est une découverte, voilà. Donc, d'innommables, donc ces enfants illégitimes dont parle Sayad, ces enfants d'immigrés dont le statut, je cite Sayad, demande à être défini, à être bien circonscrit et bien délimité par rapport au double environnement dans lequel se situe cette génération suisse generis, l'environnement naturel de la société par lequel elle ne figure pas ou ne figure pas encore, et l'environnement extraordinaire et conventionnel constitué par les immigrés dont elle ne fait déjà plus partie intégrante. Donc ce qui est intéressant, c'est que ces mouvements dans leur pratique, mais aussi dans leur discours, font ce que dirait Rancière, voir ce qui n'a pas lieu d'être vu, et surtout entendre comme discours ce qui n'était entendu que comme un bruit. Donc ces femmes sujets parlants, en déplaçant leur corps du lieu qui leur était assigné et s'opposant clairement à des assignations de genre, de classe et de race, ont réussi, selon moi, à créer un langage audible et je dirais même menaçant, car sinon pourquoi leur appel au respect des principes fondamentaux de la laïcité deviendrait un anathème, et la raison même de leur exclusion. Merci.
Merci, Karine.
On va terminer avec la dernière intervention de Malek Bouyaya. Malek, il est également doctorant au CRESPA GTM et il travaille. Et Malek, il travaille donc sur la façon dont le discours médical et son impact sur les processus de construction des identités postcoloniales. Malek, il a co-dirigé avec Maria Eleonora Sanna La polysémie du voile, politique et mobilisation postcoloniale aux éditions Archives contemporaines en 2013. Je ne veux pas évoquer les autres publications, je vous dis juste le titre de sa relation d'aujourd'hui, qui est l'usage des mots dans la fabrique d'une colonialité genrée.
Merci, Jamila. Alors, moi, mon point de départ est le constat que la question de la santé a toujours été dissociée de la problématique à proprement parler de la colonisation. Du moins, le rôle joué par les médecins et les hygiénistes durant la colonisation a été lissé et édulcoré. En disant cela, je ne suis pas en train de dire que les médecins coloniaux ont été épargnés du procès fait à la colonisation. Il ne s'agit pas non plus de dire que la médecine instaurée en Algérie coloniale n'était pas à la hauteur. En revanche, il me semble qu'on a minimisé l'impact de leur engagement dans la construction de l'Algérie et plus particulièrement sur la connaissance des autochtones et de leurs mœurs. Mon objectif ici est de m'intéresser aux médecins et aux hygiénistes dont l'histoire n'a pas retenu le nom, mais qui néanmoins étaient insérés dans les réseaux scientifiques et qui participaient à la vie scientifique non seulement des colonies, mais aussi de la métropole. Pour les médecins et hygiénistes, durant les premières décennies de la colonisation, l'Algérie était une terre où leur carrière pouvait avancer rapidement et un terrain où ils pouvaient dépasser le simple cadre de leur métier. Dès lors, quel statut occupe l'Algérie dans la perspective hygiéniste? Les médecins et autres hygiénistes se sont-ils contentés seulement d'être neutres et d'apporter leur savoir et d'œuvrer à l'éradication des maladies? Disons-le d'emblée, ce qui se jouait sur le théâtre colonial, c'était avant tout la santé des colons et la viabilité de la colonisation. Le souci est que les connaissances hygiénistes devant protéger les Européens étaient encore à leur balbutiement et il faudra attendre les avancées pastoriennes pour qu'on commence à dépasser le simple constat olfactif et le rôle pathogène de la puanteur. On ne connaissait pas encore le rôle des microbes. Comment dès lors se protéger des maladies dont on ne connaissait pas les causes? De même que les pauvres étaient vus en métropole par les hygiénistes comme source de maladies, les indigènes les remplaçaient dans les colonies. Se protéger des maux coloniaux, c'était, donc des maladies, c'était avant tout se prémunir de ces derniers, donc des indigènes, et de leur environnement. La peur majeure était la décadence de la race, sous-entendu la race européenne, et cette dégénération s'était vue comme due à l'étiolement moral. Il nous faut comprendre que le rapport de la morale et de la médecine était à la base de toute perspective hygiéniste. Un grand nombre d'hygiénistes pensaient, comme le disait encore à la fin du XIXe siècle le docteur Georges Surbled, je cite, « La morale, loin d'être étrangère à la science, y trouve sa base nécessaire. Par mille points, celle-ci confine à la physiologie, à l'hygiène, à la médecine, à toutes les sciences qui étudient notre nature physique. » Et la morale signifiée est renvoyée en grande partie aux règles strictes liées à la sexualité que les individus devaient observer dès leur jeune âge. Je me propose ici de considérer cette part de morale dans l'œuvre hygiéniste et la manière dont on concevait la présence coloniale et le rapport avec les indigènes ainsi que l'image qui se dégageait de ces derniers en rapport avec leurs mœurs. Mais avant de considérer justement la racialisation des autochtones par une imposition d'une grammaire pathologique des mœurs, il convient d'abord de considérer la manière dont les médecins hygiénistes s'inséraient dans la scène coloniale. La conception hygiéniste qui prévalait tout au long du 19e siècle était d'ordre spatial, ce qui voulait dire que pour préserver la santé, il fallait établir notamment des cartographies qui permettent d'éviter les zones insalubres. Cette spatialisation dans les colonies va se traduire par une séparation progressive entre les zones occupées par les Européens et celles habitées par les indigènes. Ces dernières étaient réputées comme fortement insalubres et sources de maladies et d'infections. On trouvera parmi les mesures de prophylaxie du paludisme, par exemple, encore au début du XXe siècle, la recommandation faite par un hygiéniste de séparer les Européens des indigènes, ceux-ci pouvant être considérés comme des réservoirs de virus. Le constat sans cesse répandu depuis les premières années de la colonisation était que le sang des indigènes était vicié et perçu globalement comme porteur de maladies les plus diverses. Alphonse Lavran, prix Nobel de médecine en 1907, affirmait en 1875 qu'en Algérie, l'incurie et le fatalisme des Arabes favorisent le développement de la syphilis. On peut voir ainsi que dans les écrits des hygiénistes, la question de la race était certes omniprésente, mais elle n'était pas rattachée comme par ailleurs à des considérations phénotypiques. Ce qui permettait d'établir une différence raciale était d'abord les causes nosographiques liées notamment aux mœurs. Le docteur Amédée Morin, par exemple, dans la saison d'hiver en Algérie, attribue bizarrement la différence à l'éducation, au moins aux conditions hygiéniques. Là où justement on aurait pu penser que les médecins coloniaux sauteraient sur la différence raciale, ils avançaient des explications somme toute sociales et donc réversibles. Est-ce à dire qu'ils étaient acquis à l'idée d'une possible promotion des indigènes par le biais de l'éducation et d'une équité sanitaire? Rien n'est moins sûr. Revenons à la question raciale. Elle est omniprésente et même la grille de lecture principale des sociétés conquises au XIXe siècle. La distance raciale dans ce cadre se base non plus forcément sur des caractéristiques physiques, mais sur des considérations morales. Ce sont dès lors les mœurs qui sont passées au crible, et c'est entre autres par le prisme des femmes indigènes et de leur corps que la distinction va prendre sens. Je reviens un moment au docteur Morin que je viens de citer, qui donnait l'illusion tout à l'heure d'une possible élévation des indigènes. Que dit-il sur les femmes indigènes, justement? Je le cite. La jeune fille indigène comprend dès sa plus tendre jeunesse qu'elle est vouée au génissé. La possibilité de célibat ne lui apparaît sous aucune forme, ni à la suite d'un acte de volonté, ni par le fait de convenance ou de combinaison sociale. Il ajoute, son existence n'étant pas point garantie par la loi de succession, elle n'est pas libre de disposer d'elle-même, ni de son avenir. À venir. Elle n'a qu'une seule chance, la beauté, qu'un seul culte, la maternité. Cette description donne l'impression d'un décalage total entre la situation des femmes dans les colonies et les métropoles, et en métropole. Or, on sait qu'il n'en est rien, et cela montre d'une certaine manière la double ignorance des sociétés à la fois françaises et indigènes. Mais cela montre aussi la qualité de la connaissance dont se targuaient les hygiénistes. Une connaissance qui se présentait comme érudite et renseignée, de par les nombreuses enquêtes de terrain, mais qui était en réalité un condensé tout simplement des mêmes stéréotypes relayés par ailleurs par la littérature orientaliste. Il est important de signaler que la plupart des topographies médicales contenaient un volet consacré soit aux mœurs, soit à l'étude de la société indigène. Mais le plus souvent, cette partie se contentait tout simplement du titre « la femme arabe ». Cet intérêt pour le statut et le vécu des femmes indigènes les constituait en éléments métonymiques. Elles devenaient à elles seules la justification de la colonisation, mais aussi l'illustration de l'arriération des indigènes. Le médecin offrait un tableau des femmes qui rend leur sauvetage par la France, une des raisons de l'établissement de la France en Algérie. Comment ne pas s'émouvoir quand le médecin constate que, je cite, « l'existence misérable de la femme dans son enfance est suivie d'une existence plus misérable encore dans sa jeunesse. Aussi, la beauté réelle de la jeune fille indigène n'est-elle qu'éphémère. Et si on la constate, c'est à travers les signes d'une décrépitude précoce. » Ceci est bien entendu de l'ordre de la rhétorique, un discours savant qui appuyait un discours politique de la décrépitude de l'ensemble de la société indigène. En arrière-fond, on peut lire la cruauté des hommes indigènes responsables de tous les maux de la société et de l'espace indigène. Si les femmes indigènes sont marchandisées, C'est à cause de l'avidité de l'homme indigène. Et si la terre algérienne est devenue au fil des siècles une terre de mort et de putréfaction, c'est encore de leur faute. Le stratagème est pour ainsi dire simple. Dénoncer l'insouciance des indigènes à travers leur foyer et le corps de leurs femmes revenait à les enfermer dans une altérité qui les éloigne de la civilisation et donc d'une assimilation possible. Leur morale n'est pas la nôtre, et c'est le médecin qui le dit, donc ça doit être vrai. Mais de quelle vérité parlait-il du haut de leur magistère scientifique? Un ensemble de thématiques ressortait de leurs études. Hormis la misère patente dont je viens de parler, la description glisse le plus souvent dans des détails ethnographiques sur le quotidien des femmes, qui en soi n'a aucun intérêt de prime abord, mais qui en réalité prépare le lecteur à accepter des récits hauts en couleur et affriolants. Ainsi, le docteur Bonafont, relatant ses pérégrinations lors de son séjour à Constantine entre 1830 et 1842, raconte la manière de se vêtir, de se tenir et les rituels hygiéniques des femmes indigènes. Et chose hautement improbable, Bonafont avance que les détails relatés, il les a recueillis lui-même pendant ses consultations. Privilège qui le faisait se retrouver seul parmi une foule de femmes. Les femmes dont il parlait faisaient partie du commun du peuple. Mais au sein de cette banalité ressort une vérité insoupçonnée qui donne un caractère émoustillant. Ainsi, si les femmes prennent soin d'elles et de leur beauté, c'est à dessein. Je le cite. Il faut dire que les femmes vont au bain pour se baigner et pour se faire épiler. Les matrones, chargées de cette opération délicate, cumulent cette fonction avec celle de courtière. Elles font une tournée préalable en ville pour faire des placements. Et le jour des bains, elles distribuent leurs marchandises selon le prix qu'elles ont reçu, avec l'adresse de celui qui a fait la commande. Cette première opération faite, chaque femme laisse au bain ses habits, ses bijoux, sa fuble d'un voile et se rend à l'endroit convenu. Une fois la visite faite, elle retourne au bain, y reste quelques instants pour refaire sa toilette et reprend ensuite la direction de son domicile. Intéressante donc description, à bien des égards, qu'on retrouve dans plusieurs récits de médecins. Ici, on l'aura compris, les femmes indigènes sont décrites toutes comme de potentielles prostituées et laissent d'une certaine manière sous-entendre le fait que toutes les femmes indigènes sont lubriques et débauchées, mais aussi que les hommes ne s'offusquaient pas de cette situation, étant donné qu'il y a là une source non négligeable de revenus. Un acte ainsi banalement traditionnel et qui aurait pu démontrer l'attachement de la société indigène aux questions d'hygiène, que les médecins entendaient justement promouvoir, devenait dans le cadre colonial une vérité absolue du caractère vicié et souillé de la société indigène. C'est là une ritournelle des œuvres médicales en Algérie, à savoir la prolifération de la prostitution. Dans un ouvrage consacré à l'histoire de la prostitution et de la débauche en 1879, le docteur Debré, peut-être le grand-père, peut-être, dans la partie consacrée à l'Algérie, constate qu'en dépit de la réglementation appliquée par les autorités coloniales, je le cite, un autre genre de prostitution fleurit en même temps et concurremment. Nous voulons parler de la pédérastie, toujours en faveur en Afrique. Pour mettre en relief et expliquer cette débauche, jugée comme monstrueuse, le docteur Debré a recours à des écrits du XVIIe siècle qui expliquaient que cette prostitution est due au fait que les femmes vont librement dans les rues, le visage couvert d'un voile et que les maris font peu de cas d'elles, leur préférant les garçons. La sodomie est tenue en honneur et celui-là est le plus considéré qui entretient le plus grand nombre de garçons. Ces garçons sont plus soigneusement gardés que leurs femmes et que leurs filles. Étonnante donc description qui contraste avec le reste du tableau esquissé de la société indigène. Nulle contradiction à leurs yeux que par ailleurs la société indigène était décrite en même temps comme fanatique et trop religieuse. À vrai dire, les hygiénistes et médecins coloniaux ne se souciaient guère des contradictions, pour peu que l'image soit saisissante. On le voit ici, le portrait se fait à charge et met l'accent, il manquait un mot, sur la sauvagerie des indigènes, ce qui donne ainsi un blanc-seing à l'autorité coloniale en mettant en avant leur avidité et leur incapacité à saisir la bienséance. On pouvait ainsi puiser puiser des éléments allant dans le sens du registre et de l'agenda du moment, tantôt féroce et tantôt trop indolent. L'indigène se trouvait éloigné racialement, quelle que soit la posture qu'on lui faisait adopter. Et c'est surtout que son attitude présumée envers les femmes et le comportement de celles-ci qu'on chargeait le trait. Ainsi, nous dit le docteur toujours Debré, en thèse générale, la pudeur est peu appréciée chez les Arabes. Et la femme arabe, pour peu qu'elle soit assurée de n'être pas vue, s'abandonnera au premier venu qui lui demandera. Et il conclut que la tente de l'arabe offre le tableau peu ragoûtant de la plus complète promiscuité. Sous la famille, toute la famille couche pêle-mêle le maître, ses femmes et ses enfants. Il suit de là que l'inceste y fleurit en toute liberté. Ce n'est plus donc une infime partie de la société indigène qui fait preuve de licence et d'immoralité, mais l'ensemble des indigènes. Ceci a pour conséquence, inévitable pour ramener le débat au discours hygiéniste, la prolifération des maladies et notamment de la syphilis que les médecins voyaient comme endémique et répandue en Algérie. On comprend aisément qu'en suivant leur description, ils ne laissaient aucun doute sur le fait que la propagation des maladies vénériennes était inévitable étant donné l'immoralité des indigènes, comme on vient de le voir. Pour conclure, je dirais qu'il est évident que l'existence des monographies médicales aussi nombreuses, où l'immoralité et la sexualité des indigènes sont mises en avant, suit d'abord, en effet, une logique médicale, mais elles répondent aussi à un besoin européen de s'évader charnellement, sachant qu'à l'époque, il y avait l'ordre bourgeois qui est institué tout au long du XIXe siècle. Tout comme la littérature et d'autres médias, la médecine participait à l'orientalisation de l'Algérie. La différence réside dans le fait que le discours médical, lui, prétend à une vérité scientifique. Ces récits, et ici je rejoins Édouard Saïd, à force d'être répétés, peu importe leur validité, passent du mythe à la réalité. Et merci.
Merci, Malek.